Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif.
Ça fait penser aux dragonniers qu'on trouve en Thaïlande.
Voilà, nous sommes maintenant avec Julien Morandi-Serra. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et on est en plein cœur de Marseille. Julia Morandi-Serra, vous êtes conteuse ici à Marseille. Vous avez vous participez notamment à l'association Paroles et Merveilles. On va prendre le temps d'en discuter. Mais avant de parler de votre association et de ses activités, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, vos débuts dans le conte. Vous nous disiez hors micro que ça faisait plus de 25 ans que vous contiez. Comment vous êtes arrivé au conte, qu'est-ce qui vous y a amené?
Eh bien, je suis arrivée au conte un petit peu par hasard, je dirais, parce que j'étais infirmière, comme c'était mon travail principal, j'étais infirmière. Ensuite, j'ai travaillé entre infirmière et conseillère conjugale au planning familial pendant une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis un jour, j'ai une amie qui me téléphone et qui me dit « Tu sais, on va être à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je dis « Écoute, je n'ai pas encore le temps d'y penser, parce que les enfants vont toujours à l'école, j'avais 3 enfants, le boulot, enfin, etc., ce n'était pas possible. » Et puis elle me dit « Tu sais, il y a un stage de conte, est-ce que tu veux venir ?» Je dis « Conte, écoute, j'ai autre chose à faire en ce moment. » Elle me dit « Écoute, faisons le stage, on verra bien. » On a fait ce stage, on est tombé là-dedans et on n'en est plus jamais sorti. À partir de là, on a commencé à créer un petit groupe de personnes que nous connaissions et nous nous sommes intéressés au conte. Et c'est nous deux, Simone et moi, qui avons fondé cette association. Alors nous l'avons appelée Paroles et Merveilles, avec Paroles au singulier et Merveilles au pluriel. À vous de réfléchir et de voir tout ce que ça veut dire. Voilà, et depuis 26 ans, l'association a continué. Mon amie Simone, malheureusement, est décédée assez rapidement, mais nous avons peu à peu recruté des conteurs. Et nous ne les recrutons dans notre association qu'après avoir fait une petite formation dont je suis la formatrice. Donc on forme les conteurs, et quand ils ont fait ces 4 jours d'initiation, hein, je dis bien d'initiation au conte, on les accepte dans notre association. Pendant un an, on va avec eux ou ils viennent avec nous pour apprendre à compter. Et puis petit à petit, ben, les choses se font comme ça, très simplement.
Sur vos débuts dans le conte, quand vous parliez de ce premier stage que vous aviez fait avec votre amie Simone, qu'est-ce qui vous a interpellé, qui vous a attiré dans cet art de compter et puis d'entendre aussi les histoires des autres? Voilà, qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans vraiment? Qu'est-ce qui a retenu, je ne sais pas, votre attention, vos émotions?
Je dois dire que la découverte du conte ne se fait pas tout de suite. La découverte du conte se fait petit à petit. Bon, au début, on apprend des contes, tout le monde peut apprendre un texte et le dire, il n'y a pas de problème. On voit ce que font les comédiens, les conteurs ne sont pas des comédiens, parce que le conte leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent. Mais petit à petit, et puis à force de lire des auteurs qui parlaient du conte, j'ai quand même appris beaucoup de choses, et puis je les ai appris aussi par moi-même. Je pense que le conte soigne celui qui l'écoute, mais soigne aussi celui qui le dit. Et je pense que dans des épreuves que nous avons, moi j'ai passé pas mal de choses assez difficiles, et je dois dire que le conte m'a sauvée. Le conte m'a sauvée parce que je me suis mise à conter, et puis je suis entrée dans beaucoup de contes par ces personnages, parce que dans le conte il y a toujours des personnages extraordinaires, et sans s'identifier complètement, bien sûr, aux personnages, on peut s'inspirer de leur parcours et continuer avec eux. Voilà, moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Peut-être que j'exagère un peu, mais je suis tombée dans le conte, c'est vraiment le cas de le dire, et je n'en sors plus, si je puis dire. Je dis toujours, apprendre des contes ou aborder le conte, c'est traverser un océan comme le Pacifique. Eh bien, moi, depuis 26 ans, je ne suis même pas au milieu. Hein. Je suis encore entre deux pays encore. Hein, voilà. Donc, pour moi, le conte, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui est compris par tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes ou autres. Tout le monde comprend un conte. Et ça, je trouve que c'est le plus important.
Et vous parliez du conte qui soigne. Est-ce que c'est pour ça aussi que dans votre association, vous avez aussi l'envie d'aller, par exemple, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite? Est-ce que c'est par là que ce travail un peu social, on va dire, est arrivé?
Oui, nous y allons. Hein, bien sûr que nous y allons. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps avec des enfants autistes. J'ai travaillé 3 ans dans un centre de psychothérapie ici à Marseille. Et c'est vrai que... Alors, je ne sais pas ce que sont devenus ces enfants parce que je ne les ai plus revus. Hein, c'était de tout jeunes enfants. Maintenant, ce sont des grands enfants. J'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps que j'avais rencontré dans ce centre. D'ailleurs, c'est lui qui m'a reconnu. Il m'a dit, mais je te connais, toi, je t'ai déjà vu. J'ai dit, ah oui, où tu m'as vu? Et il m'a expliqué où c'était. Et après, je me suis rappelée de lui, mais il était tout petit. Eh bien, cet enfant, il a fait son chemin. Alors, est-ce que ce sont les contes? J'en sais rien. Mais d'ailleurs, les psychologues, les psychiatres, se servent beaucoup de ça. Hein, parce que, par exemple, il y a 15 jours, ici à Marseille, nous avons eu Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si vous le connaissez. Boris Cyrulnik, vous ne connaissez pas. Hein, c'est un psychiatre. Et donc, lui se sert du conte dans sa thérapie. Et je pense que c'est important parce qu'il dit que chacun de nous a besoin de se référer à un héros, quel qu'il soit. Hein, voilà, un méchant, un gentil, mais tout le monde se réfère à un héros. Et quand on arrive à se référer à un héros, on peut s'inspirer de ce qu'il a fait dans l'histoire qu'on lui a racontée. Et moi, je crois beaucoup à cette thérapie-là.
Justement, quels sont vos héros à vous, Julia Morandi-Serra, vos héros ou vos héroïnes?
Bien sûr. Ben moi, des héros, j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup de contes dans la tête. Mais je crois que mon héroïne préférée, c'est Scheherazade. Scheherazade qui a soigné, qui a guéri ce fou de roi qui tuait à tour de bras toutes les jeunes filles qu'il voulait. Et ça, je trouve que c'est la première des féministes qui est arrivée à s'imposer à un roi si cruel et qui l'a guéri de sa folie. Et pour moi, c'est vraiment une mon héroïne préférée. De plus, je pense que quand on aborde les mille et une nuits, là aussi, c'est immense, c'est grand, c'est extraordinaire. Et je dois dire qu'on n'a pas... Si on n'est pas aidé dans ce chemin des mille et une nuits, on ne peut pas s'en sortir seul. Nous avons eu la chance dans notre association d'avoir un conteur exceptionnel qui s'appelle Jihad Darwish, qui est très connu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est extrêmement connu, et c'est lui qui nous a initiés aux mille et une nuits. Et je dois dire qu'il nous a ouvert une route infinie, c'est extraordinaire.
vous parliez à l'instant de féminisme, quelque chose, j'imagine, qui vous touche aussi, qui vous concerne, ou en tout cas vous avez envie d'être, j'imagine, quelque chose en tout cas d'important pour vous. Quel regard vous avez sur la condition des femmes aujourd'hui au XXIe siècle, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, est-ce que vous voyez cette condition évoluer? Comment a-t-elle évolué? Là, on parle plus forcément du conte à proprement parler, mais on peut aussi en parler au travers du conte. Vous parliez à l'instant de Scheherazade, des Mille et Une Nuits. Ça nous renvoie à une époque très reculé. Qu'en est-il aujourd'hui du féminisme? Quel est votre regard dessus? Quelles sont encore les luttes ou les progrès que la société doit mener?
Alors là, vous abordez un sujet encore plus vaste, je crois, que les Mille et Une Nuits. Bon, moi, j'ai été féministe dans les années après 68, hein, parce que là, tout a bougé. Et en travaillant au planning familial, j'ai énormément lutté pour justement pour l'avortement, pour la pilule, parce qu'à cette époque-là, c'était interdit, tout était clandestin, donc c'était très difficile de lutter. Et comment dirais-je, notre satisfaction ou notre gloire, c'est d'être arrivé quand même à des fins. On est quand même arrivé à des choses. Alors, je ne sais plus trop. Ou en est féminisme, vous savez, je suis une très vieille dame, hein. Mais moi, je vois par rapport à mes petites filles, je vois par rapport à mes enfants, comme les choses ont changé, hein. Moi, j'ai 7 petits-enfants et chez moi, il n'y a pas un mariage, par exemple, hein. Bon, donc, j'ai 3 enfants qui ont eu chacun des enfants. Chacun de mes petits-enfants a des copains, des copines, ça va, ça vient. On est extrêmement tolérant là-dessus. Et je peux vous dire que quand j'étais jeune, on ne l'était pas du tout. Et là aussi, les choses ont changé. Et quand je vois mes petites filles qui parlent... Alors, je ne sais pas où en sont exactement leur sexualité. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste toujours secret. Mais je pense qu'elles ont des facilités pour parler dans une famille où on est tolérant. Voilà. Donc, je crois que la tolérance, c'est ce qui compte le plus dans... Enfin, moi, dans mon parcours, en tout cas. Et je pense que c'est ce que j'ai passé à mes enfants. Dans la famille, on est extrêmement tolérants. Bon, les enfants ont des copains, des copines. Après, on ne les voit plus, puis on les revoit. Et puis après, on en voit de nouveau. Bon, ben voilà, le monde bouge, le monde change. Et heureusement, hein, heureusement. Ouais. Là, le féminisme actuellement, ben maintenant, il y a ces faits qui se sont produits avec le harcèlement. Bon, c'est compliqué là aussi, les choses sont très compliquées, parce que où ça s'arrête, le harcèlement, et où commence, quand quelqu'un vous plaît, comment le lui dire, hein, ça devient un petit peu difficile. Alors moi, je ne sais pas du tout, parce que je ne suis plus dans ce mouvement, mais je pense que là aussi, il faut faire la part des choses, il ne faut pas se lancer à tort et à travers, je pense qu'il faut faire un peu attention.
Et par rapport au féminisme, et pour revenir un petit peu aussi sur le conte et l'art en général, est-ce qu'il y a d'autres héroïnes qui vous ont marqué et qui ont fait aussi avancer votre pensée? Et qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, de la représentation peut-être des femmes dans les contes? Est-ce qu'il y a une condition des femmes dans les contes à remarquer?
Alors, il y a beaucoup de contes où... Les hommes sont des héros. Il y a les rois, il y a les reines, il y a les chevaliers, il y a beaucoup de héros, mais il y a beaucoup d'héroïnes aussi. Dans les contes, c'est souvent la mère qui débrouille les choses, hein. Il y a un conte merveilleux qui s'appelle Le Prince Serpent, où la mère attend un enfant depuis des années, le royaume aussi, et voilà qu'elle met au monde un serpent. Comment se sortir de cette situation? Et c'est elle, la mère, qui va faire toutes les démarches pour que son fils se sorte de là. Et ce sont 3 sœurs qui vont sortir le héros, le prince serpent, de sa condition de serpent. Parce qu'elles ont accepté de l'épouser, et en l'épousant, elles l'ont transformé en homme. Donc on peut... Pour moi, c'est le conte initiatique parfait. Hein, le prince serpent, c'est le conte initiatique parfait. Premièrement, les démarches de la mère, puis les démarches des filles qui vont faire ce que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire accepter ce serpent comme il est et le rendre comme un homme.
Quel regard vous portez sur le conte, sur l'oralité aujourd'hui au XXIe siècle? On est dans une société de l'image, de l'instant. Tout va très très vite, notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et pourtant, on trouve toujours et des conteurs ou des conteuses, et surtout des gens pour écouter ces contes, et notamment des histoires qui, on parlait des Mille et Une Nuits tout à l'heure, mais plein d'autres qui ont une longue histoire et qui disent des choses sur l'humanité et qui nous appellent souvent à la réflexion, à la sagesse. Voilà, quel regard vous avez sur la place du conte à notre époque?
Alors, on parle beaucoup de l'image, hein, puisque maintenant on est envahi par l'image, on est envahi par toutes sortes de choses. Et pourtant, dès que vous arrivez dans une classe, dès que vous arrivez à l'hôpital, dès que vous arrivez dans une maison de retraite, si vous dites « il était une fois », ça tout change. Tout change à partir de ces trois mots. « Il était une fois » et le silence se fait. Donc, je pense que même actuellement, avec toutes les images qu'on a dans la tête, et Dieu sait si on en a, je pense que parler, la voix, c'est autre chose. Moi, je me souviens d'une de mes toutes petites filles, je vais vous donner un exemple, hein, d'une de mes toutes petites filles qui était toute petite puisqu'elle n'avait que 3 mois, elle ne faisait que pleurer. Que crier, que pleurer, c'était infernal. Et ma belle-fille, à bout de nerfs, me dit « je ne peux plus la supporter ». J'ai dit « écoute, arrêtons, je vais m'en occuper ». J'ai pris la petite, je l'ai mise dans sa poussette et je lui ai parlé, je lui ai raconté une histoire. Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Elle s'est calmée instantanément. Depuis, elle a grandi, c'est une grande fille, et elle adore les contes. Et elle écrit elle-même des histoires. Donc je veux dire que... Alors je ne dis pas que ça vient de là, parce que petit à petit, moi, mes petits-enfants ont entendu mes histoires tout au long de leur vie, évidemment. Mais je veux dire que la voix, ça change tout. Alors moi, je ne sais pas quelle est ma voix, je sais que je n'ai pas une très belle voix, mais je pense que ce n'est même pas ça qui fait. Ce qui fait, c'est le regard, c'est l'histoire qu'on va raconter et comment nous, on la ressent. Si vous, cette histoire, vous l'avez en vous, que vous l'aimez. D'ailleurs, Djihad Darwish disait, pour raconter une histoire, il faut être amoureux de son histoire. Si on n'est pas amoureux de son histoire, on ne peut pas raconter. Et moi, je crois que ça, c'est le point d'orgue du conteur. Savoir raconter une histoire. Tout le monde peut raconter une blague, une histoire, n'importe quoi, c'est pas compliqué, hein. Mais raconter un conte, c'est vraiment autre chose. C'est un travail. Moi, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui parlent du conte. J'en ai lu énormément. Et je dois dire que j'ai appris, moi, beaucoup de choses en lisant ces auteurs-là. Et puis moi-même, petit à petit, je me suis fait une opinion, hein, parce que... à force de compter et puis à force de rencontrer les conteurs aussi, parce que j'ai rencontré énormément de conteurs. Et nous, dans notre association, bien que 26 ans de conte, on fait toujours des formations, hein. On a toujours des formations en cours. Là, on vient de faire une formation avec une conteuse merveilleuse qui s'appelle Florence Ferrin, et puis voilà, on continue comme ça et on apprend toujours quelque chose, parce que une histoire qui vous a touché, pourquoi? Pourquoi ce personnage-là vous a plus touché que d'autres? Pourquoi, quand vous dites une phrase, vous avez le sanglot dans la voix? Il faut le comprendre, ça. Hein. Et moi, c'est ça que je recherche. C'est ce qui m'intéresse le plus.
Vous parliez au début de la différence entre un conteur, un comédien. Est-ce que vous percevez aussi une évolution par rapport au conteur d'antan, on va dire, et par rapport au spectacle que peut être le conte aujourd'hui?
Alors, je pense que le comédien, il a un texte à dire. Il ne doit pas se permet pas de sortir hors du contexte. Il doit dire son texte hors de son texte. Un conteur, il prend l'histoire. Il la lit 4, 5, 6 fois, 7 fois, 100 fois. Hein. Vous savez, moi, j'ai des contes pour pouvoir les raconter. Je les ai travaillés un an ou deux. Hein. Bon, donc, ça, c'est autre chose. Et le conte, vous pouvez prendre le texte et puis après, vous le transformez. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne regardez pas la virgule, le point, le nom. Vous continuez votre conte. Vous pouvez ajouter des choses qui vous sont personnelles à l'intérieur du conte. Et... comment dirais-je, il fait partie de vous, c'est pas un texte de théâtre, hein, pas du tout. Et je pense que il y a beaucoup de conteurs qui comptent seulement, sans rien. Hein. Moi, je compte sans rien. J'ai juste un petit instrument de musique qui me sert juste à faire un petit peu le point, mais je compte sans rien. Et je ne suis pas la seule. Hein. Je trouve que les vrais compteurs n'ont pas besoin d'un tas de choses autour d'eux. Hein. Alors, il y en a pas mal qui ont des instruments de musique parce qu'ils savent bien jouer, et puis d'autres qui n'ont rien. Et puis, moi, je préfère ne rien avoir, sauf quelque chose de tout petit, je vous dis, pour faire mettre un petit point d'orgue à une phrase ou un chose comme ça. Surtout quand on raconte dans les classes, hein, avec les enfants. J'aime bien de temps en temps leur jouer un petit air, mais enfin vraiment, moins que rien, hein, moins que rien.
Comment ça se passe pour l'association? Est-ce que vous allez dans quels endroits vous allez et qu'est-ce que vous y faites? Comment ça s'organise cette vie avec Parole des Merveilles?
Alors dans notre association, nous sommes 26 conteurs. Hein. Alors je dis conteur, mais je devrais dire conteuse parce que nous n'avons qu'un homme, le pauvre. Mais enfin, il est là. Bon, d'ailleurs, il est d'accord pour qu'on dise conteuse. Hein. On lui a dit, écoute, tu es tout seul. Il a dit, bah, écoute, tu es conteuse, ça m'est égal. Bon, donc, nous sommes 26 conteuses. Et chacune a un petit peu, si je puis dire, une spécificité. Il y en a qui aiment les tout-petits, il y en a qui aiment les maisons de retraite, il y en a qui aiment les hôpitaux, enfin, ça dépend, voilà. Donc, chacune va un petit peu là où elle se sent le mieux pour compter. Nous comptons de la crèche à la maison de retraite en passant par les bibliothèques, les primaires, les collèges, les lycées, les hôpitaux. On va partout où on nous demande. Et comme je vous dis, quelques-unes vont à un endroit, quelques-unes vont à d'autres. Voilà. Moi, le tout petit, j'ai beaucoup raconté, donc je n'ai plus envie de le faire. En plus, ça demande énormément de travail, beaucoup plus de travail que d'aller raconter une soirée à des adultes. Beaucoup plus, parce qu'il faut avoir des objets, il faut savoir les utiliser, c'est très compliqué. Les primaires, c'est merveilleux, parce que les enfants ouvrent des yeux immenses et vous écoutent extraordinairement. Et puis après, il y a les maisons de retraite, c'est pas toujours gai, mais on y va. Hein. Et il y en a qui vont très volontiers même, parce qu'en plus on connaît les gens, à force d'y aller, on leur dit bonjour, on connaît leur prénom. Donc des fois on les mêle même à un conte, hein. On dit leur nom dans un conte, et ça leur fait plaisir, quoi, voilà. Donc ça, et puis moi je vais depuis 10 ans maintenant, dans un centre de soins palliatifs. Je ne sais pas si vous connaissez la maison de Gardanne, vous ne connaissez pas ça. C'est un centre où les gens viennent pour mourir, puisque c'est un centre de soins palliatifs. Et donc, nous comptons là depuis 10 ans. C'est toujours un plaisir d'y aller, surtout quand ils nous voient arriver, ils sont toujours contents. Alors, moi, personnellement, j'attache beaucoup de soins à ma toilette quand j'y vais, parce que je veux qu'ils me trouvent belle, quoi. Quand j'y vais, je veux qu'ils me disent « Oh, aujourd'hui, t'as fait des efforts, t'as mis une belle robe, ou tu t'es bien coiffée, enfin, etc. » Voilà, j'aime bien ça, et j'aime bien leur faire honneur, comme ça. Chez nous, en Corse, quand on veut aller chez quelqu'un d'important, on lui fait honneur en s'habillant, enfin, voilà. Donc, c'est mon point de vue, mais c'est pas le point de vue de tout le monde. Je crois que j'ai répondu là, à votre question.
Et du coup, je me demandais, pour vous, quel est le ou les publics les plus difficiles? Vous parliez c'était compliqué les tout-petits en maternelle. C'est eux le public le plus difficile pour vous?
Pour moi, non. C'est peut-être pas... c'est pas un public difficile. C'est pas ça que je veux dire. C'est un public qui demande beaucoup d'attention parce qu'ils sont tout petits, n'ont pas encore la parole. Donc, il faut savoir leur parler. Ça se fait pas comme ça, tout petit. Il faut savoir capter leur attention parce qu'ils sont distraits par toutes sortes de choses. Ils sont tous dans leur petit... comment on appelle ça maintenant? Des baby relax, c'est comme ça qu'on les appelle. Avant, on appelait ça comme ça. Les fauteuils des enfants, là, les petits fauteuils, ils sont tous là-dedans. Et nous avons une vieille conteuse qui s'appelle Colette, qui a 95 ans en ce moment. Elle disait toujours, je fais tomber les sucettes. Donc, il faut que l'enfant, il faut qu'il soit capté par ce qu'on dit. Alors, il faut lui faire voir quelques objets, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'il écoute ce qu'on dit. Il faut pas seulement jouer des mains. Alors on joue beaucoup avec les petites marionnettes, les doigts là, je sais pas si vous connaissez, qu'on met aux doigts. Donc on joue beaucoup avec ça, et puis on leur fait toucher des tissus, du carton, du papier, pour qu'ils aient la sensation. On leur fait des fois goûter un peu le sel pour qu'ils sachent ce que c'est que le sel, quand on parle du sel dans un conte, qu'ils sachent ce que c'est. Voilà, donc c'est ça qui demande beaucoup de travail, parce qu'il faut préparer ça d'avance. Il faut pas faire un couac, parce que les tout-petits le voient tout de suite. Puis si vous retournez, que vous racontez le même conte et que c'est pas ça, ils commencent à s'agiter sur leur fauteuil, parce qu'ils comprennent que là, il y a quelque chose qui va pas. Ils sont extrêmement attentifs. Voilà, alors, pour moi, c'est ça qui est difficile. C'est pas de capter l'attention, c'est plutôt de savoir comment les aborder, comment les intéresser à une histoire qui n'en est pas une, parce que quand il y a une histoire de lapin ou de le lapin qui veut pas manger ses carottes ou des trucs comme ça, il faut savoir le dire.
Et ce que vous faites aussi d'un peu plus particulier, ce sont des balades contées dans l'association. Est-ce que au niveau du rapport au spectateur, ça vous semble différent, pardon? Et puis le rapport au lieu aussi, est-ce que les contes changent par rapport au lieu dans lesquels vous comptez?
Alors, nous faisons non seulement des balades contées, mais on fait aussi des thés contés. On fait des thés comptés, on les fait une fois par trimestre, et une fois par trimestre, on fait une balade comptée. Mais vous savez, les collines de Marseille ne manquent pas d'attrait pour attirer les gens. Nous avons toujours beaucoup de monde. Alors, ça dépend où on va. Quelquefois, on peut parler... Il y a beaucoup de contes sur les calanques, donc on peut raconter des contes sur les calanques. On a raconté des contes sur l'eau, parce qu'on était dans un lieu où il y avait une petite rivière, donc on parlait de contes sur l'eau. Mais le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est les gens qui vous écoutent, et puis vous-même, quoi. Être en forme pour raconter, et puis ne pas vous embrouiller dans vos contes, parce que là aussi, quand on a beaucoup de contes dans la tête... Une fois, moi, je comptais dans l'hôpital avec une copine. Elle s'est trompée de conte. Elle a commencé un conte, puis elle est partie sur un autre. Elle s'est retrouvée à la fin avec un chat, un chien, un cheval. Enfin, elle ne savait plus comment s'en sortir. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas mélanger les contes. Mais à part ça, que ce soit dehors ou dedans, on compte, quoi. Non. Puis c'est agréable de compter dehors. Très agréable. On a fait beaucoup de contes sur les arbres, sur l'eau, sur le printemps, sur les fleurs, parce qu'il y a énormément de sujets. Et puis dans l'été compté, on a fait la mort, l'argent, je ne sais plus quoi, enfin, toutes les fois on a un sujet différent. Je crois que notre prochain sujet, ça sera les monstres. Tous les monstres dans les contes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, donc voilà. Alors voilà, on travaille là-dessus, hein, on travaille là-dessus. On travaille toujours sur un thème. D'ailleurs, une fois par mois, on travaille sur un thème précis, parce qu'on sait qu'on va nous le demander. Là, Noël, évidemment, tous les contes de Noël y ont passé, une fois de plus, une fois de plus. Et puis après, c'est les contes de la Chandeleur, et puis après, c'est les contes de Pâques, enfin voilà. Donc, on s'adapte à la saison. Les contes d'hiver, bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. Tous les contes du Grand Nord, tout ça, il y a des contes magnifiques, là aussi, hein, voilà. Donc, bon, on s'adapte toujours. Hein.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
tout cas, merci Julia Morandi-Serra de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui à Marseille. On va se permettre, pour se quitter, de vous demander, de si vous le voulez bien, nous offrir un conte pour écouter un peu ce que vous proposez et puis se quitter avec des mots doux, si ça vous va.
Très bien. Eh bien, moi, vous savez, je suis une accro du désert. J'y vais souvent, j'y suis allée beaucoup, maintenant j'y vais moins évidemment, mais j'y suis allée de nombreuses fois. Et cette fois-là, lorsque j'y suis allée, j'ai des amis qui m'avaient dit « Est-ce que tu as remarqué que le matin très tôt dans le désert, tout est bleu ?»« Ah bon, je n'ai jamais vu ça, pourtant j'y suis allée plus d'une fois. » »« Eh bien écoute, cette fois-ci, essaye de voir et tu nous diras. » Alors me voici dans le désert, comme je suis allée si souvent, et ce matin-là, je me suis levée très tôt, avant que le soleil ne se lève. Je suis sortie de ma tente sans faire de bruit, et je me suis mise sur une dune. Et là, j'ai vu que tout le désert était bleu, comme un champ de lavande, comme la mer. Mais est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai pris une poignée de sable dans la main, et j'ai regardé. Et j'ai vu des milliers, des milliards de toutes petites fleurs bleues, minuscules, pas plus grosses que la tête d'une épingle. Et lorsque le soleil apparaît, tout disparaît. J'étais là, surprise, lorsque, du fond du désert, j'ai vu arriver deux silhouettes bleues. Ah, vous les avez reconnues. Les silhouettes bleues, c'est des Touaregs. Dans le désert, on ne peut pas se tromper. Je les ai vus arriver, comme ça, ils arrivaient vers moi. Et je voyais qu'ils faisaient de grands gestes. Donc, je pense qu'ils parlaient, ils discutaient. Alors, ce qu'ils parlaient, je n'en sais rien. De quoi? Peut-être de leur famille, de leurs enfants, de leur troupeau. Je ne sais pas. Ils avançaient vers moi. Et ils avançaient. Et ils avançaient. Et puis, tout à coup, ils n'étaient plus très loin de moi. J'ai compris que leur conversation commençait à s'envenimer. Ils étaient en colère l'un envers l'autre. Ils étaient en train de se disputer. Et tout d'un coup, il y en a un qui a donné une gifle à l'autre, si bien que celui qui était giflé est tombé par terre. Il s'est relevé. Il a fait un cercle dans le sable. Et il a écrit « Aujourd'hui, mon ami m'a donné une gifle ». Ils ont continué leur chemin, mais cette fois-ci sans dire un mot. Ils sont passés devant moi, mais je me suis retirée derrière ma dune, ils ne m'ont pas vue. Et ils sont allés se baigner un petit peu plus loin dans l'oasis qui était là. Et l'oasis avait beaucoup d'eau, elle était profonde. Et celui qui avait été giflé ne savait pas nager, il était en train de se noyer. Alors l'autre l'a tiré sur le sable et il l'a sauvé. Alors celui qui avait été giflé, celui qui a été sauvé, il a pris une grande pierre plate, il a pris un couteau dans sa poche et sur la pierre il a gravé « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Alors l'autre lui a dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu matin, tu écris « Mon ami m'a donné une gifle, maintenant tu écris « Mon ami m'a sauvé la vie, explique-moi. » Et l'autre lui a dit « Écoute, c'est très simple. Quand un ami te fait du mal, grave-le dans le sable, car le vent du pardon va passer dessus et plus personne n'y pensera. Mais quand un ami te fait du bien, grave-le dans la pierre, car ni le temps ni aucun vent ne pourront jamais l'effacer. » Je les ai vus tous les deux repasser devant moi en silence et je les ai vus disparaître là-bas, au fond du désert, deux minuscules silhouettes bleues. Voilà, mon conte est terminé, qui circule parmi vous et qui circule dans tout le monde.
Merci, merci beaucoup. We'll be right back.
qu'est-ce qu'on peut en penser, en retenir de ce conte, même si je pense que c'est dit dedans. Voilà, quand un ami vous fait du mal, il faut laisser le temps que le pardon s'installe. Et puis à l'inverse, quand il est là pour nous, important, positivement, voilà, c'est ça à la fin de sa vie, sans doute de ce dont on se souvient. C'est sans doute ça que ça veut dire.
Je pense que ça veut dire ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle les contes de sagesse, les contes de philosophie aussi, qui sont des contes qui nous apportent des réponses. Hein. Je crois que là, il y a quand même une réponse qui est claire. Hein. Il est très simple, ce conte, mais je trouve qu'il est vraiment magnifique. Ouais. C'est un conte Touareg. Hein. Oui, c'est un conte Touareg. Ouais.
Et vous disiez tout à l'heure que c'était notamment les contes orientaux, notamment du désert ou Les Mille et Une Nuits, on en a parlé un petit peu, que vous préfériez par rapport à, vous disiez tout à l'heure que vous étiez corse, ou les contes provençaux ici à Marseille. Pourquoi plus les contes orientaux que d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Oui. Alors, les contes orientaux, moi je parlerai même des contes extrêmes orientaux. J'ai longtemps vécu en Chine, puisque j'ai été élevée là-bas. Et donc j'en ai ramené quand même une manière d'être, hein, voilà, d'une part. Et puis d'autre part, dans les contes chinois, dans les contes d'Extrême-Orient, dans les contes japonais, il y a de très belles choses, des choses très très intéressantes. Et puis alors, il y a aussi en Orient, il y a aussi tous les contes zen, hein, qui sont des tout petits contes qui font une minute, qui font pas plus, mais que de leçons à prendre. Hein. Ensuite, les contes arabes, je vous disais tout à l'heure que c'est ce que j'aime beaucoup. C'est parce qu'il y a là aussi, il y a toute une histoire, et puis il y a tellement une foule de détails. Il y a de la beauté, il y a de la brillance, il y a des choses comme ça. Et ça, j'aime ça. Moi, j'aime les rois, les reines, les princes. Comment dirais-je? En tant que conteuse, je ne les vois peut-être pas de la même façon qu'on les voit dans le monde actuel. Un roi, c'est celui qui s'occupe de son peuple, c'est celui qui est sage, c'est celui en qui on peut demander des choses, et c'est celui qui doit savoir répondre. Et je pense que bien des politiques feraient bien d'apprendre quelques contes, ça leur ferait beaucoup de bien. Je crois, hein, j'en suis vraiment persuadée, parce que, bon, vous y êtes comme moi, là, là-dedans. Donc on y est tous, hein, voilà. Et puis... Après, il y a les contes merveilleux, tous les contes de Perrault, les contes d'Andersen. Ça, c'est notre tradition à nous, que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, dans les classes de 6e, on nous le demande, parce que le conte est au programme. Hein. Donc, les enfants de 6e, ils apprennent les contes merveilleux, ils les travaillent. Hein, parce que dans le conte merveilleux, il y a ce qu'on appelle la structure. Cette fameuse structure qui va structurer l'enfant lorsqu'il va apprendre ses contes. Et pour moi, le conte merveilleux, c'est un conte initiatique. Pour les enfants, c'est extrêmement important de savoir les contes, le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, peau d'âne, c'est des contes extraordinaires. Hein. Cette peau d'âne qui toute seule est partie pour échapper à l'inceste, le petit chaperon rouge qui va rencontrer le loup, mais qui va s'en sortir, enfin, tout ça, c'est des histoires qui nous touchent énormément, parce que dans notre vie ou dans notre enfance, on va les vivre un jour. On va y aller nous aussi. Hein. Donc il faut savoir comment agir. Hein. Et quand je vois l'histoire de Peau d'âne, qui est une histoire magnifiquement merveilleuse, comment elle a fait? Elle est partie. Elle a tout quitté. Elle a quitté son père, elle a quitté son palais, elle a quitté tout ce qu'elle avait, et elle est partie avec ça. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est lorsque sa marraine, la fée, lui dit « Mais ton coffre te suivra partout où tu seras. Tu n'auras qu'à taper 3 fois sur le sol et ton coffre réapparaîtra. Car n'oublie jamais que tu es une princesse. » Ça, je trouve que c'est... Hein, vous trouvez pas ça merveilleux, mais tu es magnifique.
Thank you.
par principe. C'est de leur faire passer l'attention. Voilà. Si je suis arrivée à ça, j'ai gagné mon pari. Voilà.
Comment ça se passe justement la transmission au nouveau compteur? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelle est votre façon de faire à vous?
Alors notre petite initiation, hein, j'appelle ça. Il faut bien dire le mot initiation. C'est pas une formation. Hein. On commence par raconter des contes. Déjà pour les mettre dans le bain du conte, parce que le conte c'est quand même un peu particulier. Il faut se mettre dedans. Et puis après, on voit un petit peu. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils sont venus là? Bon, il y en a beaucoup d'enseignants hein, qui, après leur travail d'enseignant, se tournent beaucoup vers le conte ou vers l'association Lire et Faire Lire. Hein, il y en a pas mal qui font ça, hein, de plus en plus. Et puis voilà, et puis petit à petit, moi je leur dis un petit peu ce que je vous ai dit sur le conte, ce qui m'intéresse. Et petit à petit, je les fais entrer comme ça dans ce monde qui est un peu particulier. Et puis je dois vous dire que dans notre association de conteuses, on a tous des problèmes plus, hein, parce que comme tout le monde, on a des familles, mais on est d'une gaieté qui rien n'atteint, parce que nous sommes des conteuses, et dès que ça ne va pas, on se raconte un conte. Et moi, quand ça ne va pas, je me raconte un conte, puis après je me dis, ne te plains pas, ton héros a vécu pire que toi, donc avance, hein, puis c'est tout. Donc vous voyez, d'ailleurs moi j'ai mon héroïne préférée des contes, c'est Scheherazade, mais j'en ai une autre moi, c'est Alexandra David-Neill, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, vous ne connaissez pas Alexandra? Il faudra la connaître parce que c'est un personnage exceptionnel. Voilà, et je me dis toujours, qu'est-ce qu'Alexandra aurait fait à ma place? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Alexandra? Et du coup, mes affaires ne s'arrangent pas, hein, je ne dis pas ça. Hein. Mais je sais mieux les affronter. Et je crois que ça, c'est la récompense, je dirais, des conteurs qui aiment le conte et qui savent ce qu'ils racontent. Parce que je vous dis, une histoire, tout le monde peut la dire. Mais savoir ce qu'on dit et le comprendre, c'est un peu plus compliqué, ça. C'est un peu plus compliqué.
En tout cas, merci encore à vous, Julia Morandi-Serra, de nous avoir livré tous ces mots ici chez vous à Marseille. Et on rappelle votre association, Paroles et Merveilles, Paroles au singulier et Merveilles au pluriel. Merci à vous, Julia, de nous avoir accueillis. Merci.
Et merci à vous de m'avoir fait parler du conte, parce que vous savez, je suis intarissable. Hein. Il faut m'arrêter. Sans ça, j'arrêterai jamais. Et ce que je dis beaucoup à aux nouveaux conteurs, sortez, allez au théâtre, au cinéma, lisez, allez à des expos, ne vous enfermez pas chez vous, sortez, voyagez, marchez. Les conteurs sont des marcheurs, hein, les conteurs marchent beaucoup. Donc, marchez, comptez, voyagez, mais surtout ne vous enfermez pas. Ça, c'est le plus important, je crois.
Pas seulement pour les conteurs. Pour tout le monde.
Oui, pas pour tout. Et n'ayez pas peur d'aller dans la rue, de vous rencontrer des gens. Il faut essayer de vivre, quoi, hein, c'est sûr.
Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. De musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif.